Bonjour à tous, nous revoilà dans Écho en folie et Bernard Ferrand est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
C'est l'été, tout le monde est en vacances, plein de choses se passent au-dessus de nous. On va parler monnaie, puisque quand on est en vacances, on en a besoin.
Ah, c'est une notion intéressante, surtout dans ce mot-là. Parce qu'en fait, on dit tout le monde est en vacances, c'est faux. Certains sont déjà rentrés, même depuis début le mois. Certains travaillent, certains sont d'astreinte, et d'autres ne sont pas partis en vacances.
C'est vrai.
Donc, c'est un mois où on parle déjà de la rentrée. Surtout lorsqu'on a des enfants, il va falloir les habiller, etc., s'organiser, qui va les garder. Donc on est déjà dans une réflexion économique.
Tout à fait, tout à fait. Mais on va parler argent sous une autre forme, on va dire.
Trappe de liquidité, planche à billets, taux de change, voilà. Système bancaire. Mm-hmm. Peut-être même on parlera de l'effet hollandais. Savoir.
Oui,
on va essayer de parler de quelques notions simples d'économie qui nous permettront certainement de mieux comprendre ce qui se passe.
Tout à fait. On commence par la trappe à liquidité. C'est quoi ?
Oh, la trappe à liquidité, comme son nom le dit, c'est la liquidité, c'est la monnaie liquide, comme on dit. On le dit souvent d'ailleurs, liquide. Et tout d'un coup, hop, elle disparaît. Mm-hmm. Que s'est-il passé ? La trappe à liquidité, ça vient de cette notion très simple, il y a de l'argent auprès des personnes, des acteurs économiques, comme on dit, ou des agents économiques, et tout d'un coup, cet argent, il ne sert plus. C'est pour cela qu'on parle de trappe a disparu. Alors, très simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? On va prendre un exemple. Une personne inquiète, un ménage inquiet, se dit « Ah, le futur peut nous réserver une mauvaise surprise, etc. » On fait des économies. On fait des économies, qu'est-ce qu'on fait ? On peut garder, évidemment, ça se faisait dans l'ancien temps, un peu moins aujourd'hui, on peut garder de l'argent sous forme de liquidité. Hein, on met dans la boîte en carton, on le cache, quelques billets, etc. Mais à titre de précaution. Ou tout simplement, on le dépose sur un livret à la banque et on n'y touche plus. Ça, c'est la façon la plus courante.
Oui.
Et cet argent, le ménage l'a perçu. Et finalement, il ne le met pas dans l'économie puisqu'il n'achète rien. Il est inquiet. Qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour mes enfants, pour ma maison, pour etc. L'inquiétude. On voit l'avenir avec un peu de soucis et donc on économise. Pourquoi c'est important cette notion de trappe à liquidité ? Très simplement, c'est que vous pouvez avoir un gouvernement, un État, à travers sa banque centrale. Il dit l'économie ne va pas trop bien, il faudrait que repartir dans la machine. Eh bien, on dit augmenter les salaires, diminuer les impôts, toute référence à l'actualité est due à un hasard heureux, et ainsi de suite. Et finalement, on injecte, comme on dit, de l'argent en économie, ou on laisse de l'argent auprès des acteurs économiques, et puis ils ne dépensent pas, donc ça n'a aucun effet sur l'économie. C'est ça, la trappe à liquidité. Mmh. On utilise un moyen d'action, l'argent disponible pour les ménages, pour l'acteur. Et finalement, ils ne l'utilisent pas.
Oui. Ils ne l'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas confiance ?
Ben oui. Pas confiance en venir, une certaine crainte, une certaine peur. Alors, c'est d'une manière générale. Parce que ce mécanisme de crainte, etc., est un élément habituel, d'ailleurs, qu'utilisent les banques en disant aux personnes, pensez à votre retraite, ouvrez un livret, etc. Mmh.
D'accord.
Il y a, dans la nature humaine et dans notre système, il y a toujours quand même ce rappel, pensez à vous-même, à un événement du futur, etc. Mais lorsque c'est général, ben c'est là où on parle de trappe à liquidité.
D'accord.
On a un exemple très simple qui va arriver. On parle, le gouvernement nous parle d'une réduction de la taxe d'habitation qui devrait se mettre en place rapidement. Donc beaucoup de ménages vont en profiter, ils auront un peu plus d'argent disponible. Est-ce qu'ils vont le dépenser ? Ou est-ce qu'ils vont le laisser sur le livret d'épargne dans leur banque ?
À mon avis, ils vont le dépenser.
Bon, ben, ça voudra dire qu'ils sont optimistes, qu'ils ont envie de flamber, etc.
Mmh. C'est ça le rôle finalement de cette trappe à liquidité.
Voilà, ça signifie ça. Très simplement, d'accord. L'argent a été injecté mais ne sert à rien.
D'accord. Est-ce que cette existence de trappe à liquidité est admise par tous les économistes ?
Pas tout à fait admise par tous les économistes, parce qu'ils considèrent, si vous voulez, que d'abord, il y a un comportement logique à ce qu'on ne dépense pas tout, mm-hmm. hein, une volonté d'épargne. Et ils disent aussi que souvent, pour certains, c'est, on injecte de l'argent dans l'économie à tort. quelque part.
Oui.
Ce n'est pas le moment d'injecter. On le fait parce qu'on pense que ça va fonctionner et justement, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a ça comme problème. Mais c'est un problème qui est réel. On a eu des politiques de relance d'un gouvernement. On l'a vécu en France, on l'a vécu ailleurs, dans d'autres pays, on le revivra peut-être. Des politiques de relance à travers des réductions d'impôts, à travers on injecte sur des investissements publics. Et finalement, l'économie, elle ne bouge pas, elle ne se porte pas bien, ça continue à marcher. L'argent est parti dans les banques. Mais par contre, cet argent, l'État ne l'a plus. Donc il a aggravé le déficit. S'il y a déficit, il l'a aggravé. En aggravant le déficit, il génère de l'inquiétude. Parce que les personnes vont se dire « la situation économique ne va pas bien, le déficit de l'État a augmenté, on va être mal jugé par nos voisins, on va nous demander de rectifier le tir », avec raison certainement, mais de rectifier le tir. Donc derrière, il va falloir avoir des recettes supplémentaires. Ouh là là, ça m'inquiète, je ne dépense pas.
D'accord. Voyez,
il y a une ambiguïté.
Mais est-ce que les banques aussi ne font pas aussi un petit peu cette trappe à liquidité?
Ah, elles peuvent aussi, dans la gestion courante, elles peuvent le faire.
Oui.
Bien entendu. Elles ont des liquidités disponibles puisque l'argent délivré arrive. Et au lieu de l'investir sur du long terme, prêts, oui, etc., peuvent dire placement de court terme sur le marché financier.
D'accord.
Aussi. Donc à ce moment-là, l'argent qui est arrivé, ben finalement, il n'a pas beaucoup d'effet dans l'économie.
Oui.
Donc, on revient au point de départ. Élément important en économie dont on ne parle jamais, c'est la psychologie. Comment les personnes voient leur avenir? Comment ils perçoivent notre société? Comment ils perçoivent et analysent les informations? C'est extrêmement important pour les acteurs économiques. Ça guide notre comportement d'achat, soyons honnêtes.
Deuxième tranche, la planche à billets.
Oh, la planche à billets, une vieille histoire qui peut participer d'attraper à liquidité.
Et oui, justement, ça c'est lié.
La planche à billets. Alors, c'est un terme qui rappelle la gravure, puisqu'en fait, un billet, c'est quelque chose d'imprimé, d'une manière très très simple. C'est imprimé. Alors aujourd'hui, ce sont des moyens extrêmement sophistiqués, des chaînes d'impression. On fait des billets comme on fait finalement des flyers ou des petits papiers pour annoncer les fêtes de village un peu partout.
Oui.
C'est des mécaniques, il y a une technologie de force. Mais à l'origine, il y a longtemps. Vraiment, semble-t-il, la planche à billets, on la date à peu près du XIIIe siècle et ça aurait commencé en Chine. Très simplement, c'est la gravure sur du bois. On enduit d'encre et on imprime. Et là, on a une gravure très belle. On a d'ailleurs dans le Volvestre des personnes qui font des gravures merveilleuses. Je fais référence à Marika, par exemple.
Oui.
Mais ce sont des billets, c'est-à-dire contre lesquels on pourra payer, rembourser ses dettes. Donc, c'est ça, la planche à billets à l'origine. Donc, c'est très, très simple. Et maintenant, on avance un peu. Très simplement, dans l'histoire de la monnaie, on a eu une période où la monnaie, c'était aussi des choses gravées.
Oui.
Bon, on peut remonter très loin avec l'invention de l'écriture, c'est peut-être pas l'objet. Et ensuite, ça a été le métal. Et le métal, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Tout le monde a parlé de Crésus. Crésus, il avait fait fabriquer au 5e siècle avant Jésus-Christ des pièces de monnaie à son effigie. Donc il est resté célèbre. Ces pièces étaient faites d'alliages, en général. De cuivre, des fois, mais souvent des alliages avec du cuir, du visin. Enfin, les matières, et de l'or, bien sûr, qu'il y avait sur place, avaient des proportions qui variaient. Important comme notion. Parce que là aussi, on va avoir des manipulations éventuelles. Donc, ce sont les pièces. Les pièces sont restées la monnaie courante. L'utilisation était courante jusqu'à la Révolution française. Voilà. Cette période-là, et en particulier à la Révolution française, puisque là, l'État a explosé. Les collectes d'impôts, l'impôt ne rentrait plus, etc. Donc, qu'a fait le directoire? Eh bien, on va imprimer des billets. Ça existait, hein. Il y avait déjà des pays où il y a eu des expériences. Il y en avait eu en France, malheureusement. Ils ont imprimé des sortes de billets, ce sont les assignats. Évidemment, c'était très simple. Hein. On passait derrière le magasin et on allait voir, allez, tu m'en imprimes pour 100 millions. Voilà. Et puis, on payait les fonctionnaires, on payait les soldats, on payait les dépenses d'État. Et ça diffusait partout. Mais très vite, les gens, c'est du papier. Qu'est-ce que je fais? Je paye, mais est-ce que le commerçant va les accepter? Il y en a tellement, ça prolifère. Donc très vite, leur valeur faciale, comme on dit, s'est effondrée. un billet de 100, un assignat de 100, eh bien, en fait, on ne pouvait même plus acheter un bout de pain. Mmh. Voilà. Donc, il y a une méfiance, une peur, et puis tout d'un coup, un rejet. À un moment donné, l'assignat, plus personne ne voulait être payé avec des assignats, y compris l'État. Ça ne valait plus rien. Donc, la planche à billets, c'est cette commodité. L'État contrôle la Banque centrale. Il peut, d'une manière autoritaire, dire imprimer des billets, aller lancer. C'est facile, ça ne coûte rien.
Oui, la planche à billets, au sens large, peut prendre différentes formes. Donc, il y a une forme de monnaie fondante et une forme de monnaie fiscale. Explication.
Ça va être un peu complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la planche à billets, on a décrit le mécanisme de base. C'est-à-dire, l'État donne et imprime des quantités de billets qui n'ont pas de relation avec l'économie. Et le billet perd de la valeur. Et derrière, la confiance des gens aussi disparaît.
Oui.
Bon, on peut le faire d'une manière massive. Ça arrive dans des pays en crise. Il faut le savoir. C'est arrivé en France. Ça peut réarriver. Ensuite, il y a des formes plus subtiles de planche à billets pour l'État. On peut parler de planche à billets fiscale, c'est-à-dire de faire des remises fiscales en veux-tu, en voilà. En sachant que derrière, eh bien, il va falloir bien collecter et rééquilibrer le budget. Mmh. Et comment le faire si vous n'avez pas les recettes pour un État? Comment vous faites pour payer? Comment vous faites? Eh bien, vous émettez des reconnaissances de dette, etc. Et donc, finalement, vous payez avec du papier et le remboursement se fera de quelle façon? On le sait de quelle façon il se fait. C'est les plus petits qui payent. Mmh. Ce sont les moins réactifs qui supportent. Donc, on le fait de cette façon. Et ça peut être, de ce point de vue, une manière détournée de la faire tourner. Il y a une autre façon aussi que nous connaissons bien depuis la crise financière de 2007, hein, à savoir, on commence à dire aux banques, allez-y, faites crédit, c'est ouvert, et vous vous présentez à la Banque de France, et maintenant à la Banque Centrale Européenne, et on vous prête, guichet ouvert. On peut dire d'ailleurs qu'actuellement, on est dans cette période-là. Tout le système bancaire européen s'alimente comme il veut, tant qu'il veut, auprès de la Banque Centrale Européenne. C'est un danger pour l'euro, il faut le savoir, c'est un danger. Il y a une prolifération, il y a trop de monnaie qui se met en place par rapport à la réalité économique.
Mmh. Quel est le but justement de cette planche à billets pour l'économie, alors d'abord française et européenne, après mondiale.
Le but, c'est pour celui qui l'émet de payer ses dettes ou d'essayer de relancer l'économie. Mais le résultat, c'est l'inquiétude du résultat. Parce que c'est effectivement mettre en danger la valeur de la monnaie et mettre en danger la confiance qu'on peut avoir. Beaucoup de personnes d'un certain âge se rappellent du franc. Se rappelle des périodes où on a dévalué régulièrement. On va aborder le taux de change, mais on a dévalué la monnaie. C'est-à-dire que concrètement, elle avait perdu de sa valeur. Celui qui avait un billet de 100, du jour au lendemain, il avait perdu 5%, 10%, comme ça. Hop, ça s'était évaporé. C'était facile. Oui, mais c'est pour cela aussi que dans le débat politique, par exemple en France, c'est présidentiel, certains partis politiques proposaient la sortie de l'euro. Bien, d'abord, ils n'ont pas gagné. Et ensuite, en suivant la presse, par exemple, on voyait bien qu'un certain nombre des gens qui les soutenaient, ces partis, étaient totalement contre la sortie de l'euro. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tous les gens européens de la zone euro, l'euro est une monnaie stable dans le rapport au monde. Et ça, c'est fondamental. Mmh. Pour beaucoup de gens, l'opinion politique passe quand même après le portefeuille.
Oui. Que se passerait-il si on n'a plus de billets, est-ce que le billet peut disparaître? Parce que, avec tous les moyens qu'il y a de télé-argent, on va dire, hein, même si c'est un peu précurseur, est-ce que ça peut disparaître?
Ah, le billet va disparaître. D'abord parce que dans le billet, on peut le garder, hein, par devers soi. On peut évidemment payer autour de soi sans déclarer quoi que ce soit. C'est les commodités de l'argent liquide. Hein, on peut faire le travail au noir, finalement, il n'y a pas de traces. C'est ça qui est important. Ce qu'on achète au voisin qui vend un peu de production de jardin, il n'y a pas de traces. Donc, c'est une grande commodité. D'accord ? Mais aujourd'hui, avec les technologies, et d'une manière d'ailleurs encouragée par l'État, on va progressivement vers la disparition du liquide. Liquide sous forme billet ou pièce.
Oui.
On le voit, par exemple, avec le paiement sans contact, avec la carte de paiement, qui se fait d'une manière assez générale dans les magasins en France actuellement, jusqu'à une certaine somme, 20 euros, je crois, en général. Mais dans notre pays, on est à 200 euros, 500 euros.
Oui, mais contact. Pourtant, ce n'est pas sécurisé comme, voilà, je donne, par exemple, j'achète ma baguette de pain, je la paye en argent sonnant et trébuchant. Le système de paiement dont vous parlez n'est pas sécurisé à 100%.
Bon,
c'est
pièces,
connu et reconnu.
Les pièces et les billets non plus. Il y a des faux billets qui circulent, il y a des fausses pièces qui circulent. Donc il n'est jamais garanti à 100%. Par contre, de la monnaie électronique, comme l'on dit, c'est garanti comme l'électronique, quoi. C'est un échange et c'est comptabilisé, c'est tout. Donc cette monnaie fiduciaire, comme l'on dit, fiduciaire venant de confiance,
oui.
Eh ben, elle devient électronique. Elle sera sécurisée. Mais après, il pourra y avoir des périodes de pagaille. Mais ça se développe à toute vitesse. Alors, pour nous,
ce qui veut
nous,
dire quand même
dans
que
nos campagnes, on est encore attaché à ça. Si vous voulez, aux billets, aux pièces. Mais demain, moi je vois dans certaines villes européennes où je suis allé, en particulier en Europe du Nord, bien vous savez, l'essentiel des paiements, mais alors l'essentiel, vous voyez, se fait d'une manière électronique. On voit quasiment plus une pièce, plus un billet. Alors, derrière, il y a l'État qui encourage, il faut le savoir.
Oui, mais ça on en... ce n'est pas...
Parce que ça permet très simplement de faire disparaître l'épargne stérile, comme on dit, c'est-à-dire les liasses de billets que l'on cache dans le frigo, dans le congélo, derrière la cheminée, ou etc. Il y a une quinzaine de cachettes habituelles dans les maisons. Donc les voleurs les connaissent bien d'ailleurs. Et donc ces liasses, cette épargne que l'on garde, on ne sait jamais ce qui peut se passer. D'ailleurs, il y avait eu déjà une première alerte qui était, le gouvernement avait annoncé que la Banque européenne allait arrêter l'émission de billets de 500 euros. D'accord ? Mais qui a vu des billets de 500 euros ? Où sont-ils ces billets de 500 euros ? Que sont-ils devenus ? Ah, bonne question, monsieur. Que sont-ils devenus ? Eh bien, il y en a. Ben, ils sont dans des enveloppes, ils sont cachés, ils sont là, c'est de l'épargne.
Ils sont peut-être dans des banques spécialisées.
Ils sont peut-être dans le... Oh, c'est au coffre-fort, peut-être aussi à la banque, mais ils sont quelque part. Voilà, ils ont servi à ça. Donc, ils ont eu un usage. Les personnes qui épargnent demandent à épargner. Certaines le souhaitent d'une manière liquide, elles ont confiance en rien. Pourquoi pas ?
Quelles sont les conséquences si justement ces billets sont mal employés ? Ces planches à billets et billets.
Ah ben, comme l'assigna, si vous en émettez beaucoup plus que ce que demande l'économie, eh bien, il y a une perte de confiance, la valeur du billet baisse, s'effondre. La valeur de la monnaie, ce n'est pas le papier qui s'effondre.
Oui.
La valeur de la monnaie s'effondre. Et donc, voilà, les prix augmentent. Ça se traduit par une hyperinflation. Et hyperinflation, il faut bien voir le mécanisme. Lorsque votre monnaie, dont la valeur baisse fortement, ben voilà, nous sommes au mois d'août, pensez à votre séjour dans un pays étranger, n'est-ce pas, avec un franc qui aurait perdu 20% de sa valeur depuis le début du mois de juin. Comment vous faites en vacances ? Ben vous écourtez, vous rentrez chez vous, c'est terminé. Et quand vous rentrez chez vous, vous dites, je quitte la Grèce, je pourrais amener de l'huile, des olives, etc. Et tout d'un coup, vous rendez compte que votre monnaie, par rapport à la monnaie grecque, elle a perdu la valeur. Et bien, au lieu de prendre 3 litres d'huile, et bien, vous n'en ramenez qu'un. Ça se traduit concrètement. Mm-hmm. Et donc, ça importe de l'inflation, puisque ce que vous achetez à l'extérieur devient plus cher, en fait. Et par contre, vous devenez plus compétitif à l'exportation.
D'accord. Il y a une alternative qui peut exister ou pas ?
L'alternative, c'est d'avoir une zone économique avec une monnaie commune. C'est l'Europe et l'euro.
D'accord.
C'est la véritable alternative d'égalité et de stabilité de notre monnaie.
On passe à notre troisième idée, le taux de change. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe peut-être. Il faudra peut-être y revenir, on ne sait jamais. Qu'est-ce que c'est un taux de change fixe ou flottant ?
Le taux de change fixe, c'est historique comme flottant. Il faut définir le taux de change. C'est le rapport en termes de pouvoir d'achat entre deux monnaies. Une heure de travail ici, dans tel pays, une heure de travail en France. C'est le taux qui va harmoniser en quelque sorte le coût du travail, du pain, des soins médicaux, du voyage, du transport. Le coût de la vie des deux côtés. C'est la monnaie qui va équilibrer ça. Deuxième chose, c'est un élément de fixation de ce rapport entre deux monnaies. Deuxième élément, ce qui va le déterminer aussi, c'est en fait son commerce international. Le pays qui a un excédent très très important, comme on l'a connu en Allemagne, bien voit sa monnaie qui est recherchée. Puisque les pays qui achètent, les entreprises extérieures qui achètent ces produits, il faut bien qu'elles les payent. Donc elles sont à la recherche de cette monnaie. Donc elles vont la payer plus cher. D'accord ? Voilà, donc vous avez ces éléments. On pourrait dire l'économie en général fait l'équilibre. Mais il n'y a pas que ça. Les raisons économiques seront des raisons qu'on peut dire objectives. Le prix de la baguette de pain, le prix des boissons, le prix du travail. Là, ça équilibre. Mais il y a aussi un autre élément, c'est l'importance du pays. Par exemple, les États-Unis, historiquement, ne sont pas un pays avec vraiment une industrie compétitive. Loin, loin de là. Mais le dollar américain domine le monde, quelque part, très simplement parce que les États-Unis, c'est la première armée mondiale, c'est ensuite la première arme atomique du monde. C'est la puissance des États-Unis qui peut expliquer la puissance relative du dollar. Dans notre histoire économique, dans des périodes troubles, les pays ont décidé, certains d'entre eux, d'avoir des taux de change fixes. C'est-à-dire, 1 euro égalerait, par exemple, 2 dollars. Voilà. Et la banque centrale du pays euro serait chargée de maintenir ce cap, de faire en sorte que ça soit comme ça, et les mesures économiques de le faire. Ça permet de travailler dans un monde certain. Celui qui fabrique, qui va exporter, qui veut partir en voyage, il est dans un monde bien déterminé, certain. Il va payer son billet, je le prends maintenant, je le paie dans 6 mois, ça sera 2-1. Ce système-là s'est effondré, ce sont les accords de Bretton Woods. Ça n'a pas pu tenir. La monnaie de référence, c'était le dollar. Et les Américains ont dit, non, on en a marre, ça ne marche plus. Donc, ça s'est effondré. On est passé à des taux de change variables. Variable pourquoi ? Eh bien, il se négocie tout le temps, à chaque seconde, sur un marché financier. Alors, il se négocie, c'est les rapports de force, c'est les données économiques, c'est l'ambiance générale, c'est le trouble de l'ordinateur, c'est la spéculation. Le mot est employé, la spéculation. Mmh. Et c'est les spéculateurs qui fixent les taux de change.
Et c'est comme ça qu'évolue le taux de change ?
Ah oui, absolument. Alors, il y a des données réelles. Il y a des données objectives. Lorsqu'un pays a un déficit extérieur important, on se dit, mais ça va continuer jusqu'à quand ? Il va bien falloir qu'il rééquilibre ses comptes. Jusqu'à quand on va lui vendre des choses ? Puisqu'il a sa monnaie va baisser, obligé. Il faut qu'il retrouve la compétitivité, il faut qu'il exporte, lui, pour payer. Allez, ça, c'est une donnée objective. Mais après, il y a les données politiques. Ah, il a changé le gouvernement, c'est inquiétant. Qu'est-ce qu'ils vont prendre comme mesures internes qui vont ne pas satisfaire les plus riches, par exemple.
Oui.
Le taux de change est soumis à beaucoup de variables qui ne sont pas des variables objectives et strictement économiques.
Mmh. À quoi sert le taux de change ?
Ben, c'est le prix entre deux monnaies. C'est très simplement.
Oui.
Avec 1 euro actuellement, j'ai un peu plus d'un dollar, mais pas beaucoup plus. Mmh. Il y a 3 ans, j'avais 1,40 $. Voyez, l'euro a baissé par rapport au dollar et aux informations télé, dans les journaux, qu'est-ce qu'on disait ? C'est bien, hein, parce que les exportateurs français, Airbus, ah, ils étaient mal Airbus, vous voyez ?
Oui.
Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont, disons, des coûts en euros qui étaient chers, alors qu'ils vendent en dollars qui étaient devenus bon marché.
Oui.
Donc comment faire de la marge ? Vous voyez ?
Oui,
c'était
oui,
concret.
D'accord. Justement, pourquoi on se réfère au dollar ? Pourquoi on ne se référerait pas qu'à l'euro ?
Ah.
Est-ce que c'est important, justement, l'euro face au dollar ?
Ah, c'est extrêmement important. C'est les deux économies mondiales.
Oui.
Il n'y en a pas 36. Les deux premières, c'est l'Europe et les États-Unis. Et vient le Japon. Bien, pourquoi ? Eh bien, ça fixe le rapport derrière la monnaie. Il y a les objets,
oui,
il y a les produits, il y a les services. très simplement. Si vous dites, eh bien, une orange, c'est $1 en Californie, et ici, c'est 1 euro, bon, vous allez dire, eh bien, la parité, c'est 1-1.
Est-ce qu'il serait important que, par exemple, les pays européens aient la même force, justement, pour faire face au dollar ?
Ah ben, les pays européens de la zone euro ont cette monnaie, travaillent dans cette monnaie, qui est stable et qui représente une économie extrêmement importante au niveau du monde. C'est-à-dire, c'est une force. Mais après, dans le rapport de force, ça se dit, c'est pas l'Europe qui fixe le rapport de force. C'est d'abord la politique européenne. Est-ce que, toujours pareil, les milieux financiers, les spéculateurs, est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne politique ou mieux pour... Si c'est mieux que le dollar, eh bien, l'euro va monter. Si c'est moins apprécié que le dollar, eh bien, l'euro va baisser. C'est ces données-là. Mais derrière, ça tient à peu de choses. Quoi, je veux dire. Ça tient à peu de choses. Par contre, pour des pays européens, l'euro est une grande monnaie forte du monde aujourd'hui. Pour des pays européens, c'est très difficile pour eux. On peut parler de la Pologne, on peut parler des derniers entrants, on peut parler de la Grèce. Ces pays derniers entrants, ils ont beaucoup de mal à être compétitifs avec cette monnaie.
Oui.
C'est clair. Et certains voudraient revenir en arrière. On parle par exemple un peu de la Pologne. Ils voudraient revenir et retrouver leur monnaie très simplement pour trouver la capacité d'évaluer la monnaie.
Oui.
C'est-à-dire artificiellement de dire ben maintenant, ben voilà, on la dévalue, donc on va devenir plus compétitif au niveau du travail, etc.
Oui.
Tandis que l'euro les oblige effectivement à avoir beaucoup de discipline interne. Mais d'autre côté, c'est une force pour eux, parce que d'abord ça leur permet d'avoir les produits venant de l'extérieur à des prix raisonnables, et aussi c'est une force par rapport à l'épargne, à l'investissement. Si vous investissez dans un pays où la monnaie est stable, vous, investisseur, c'est quelque chose qui est attractif pour vous. C'est un plus, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mm-hmm.
Si vous investissez dans un pays où la monnaie fait des hauts et des bas, vous n'en sortez pas. Et je peux vous dire, des pays qui sont en pleine planche à billets, comme on dit, qui font tourner la planche à billets, le Venezuela actuellement. Tout va mal, les impôts ne rentrent plus, donc on imprime des bolivars, là, et on y va, et plus personne ne les veut, et derrière, tout le monde négocie avec des dollars sous la manche.
Oui.
Comme on l'a vu à Cuba.
On est au mois d'août, pour finir.
Oh, au mois d'août, déjà pour finir, le temps est fini, et on arrive à la rentrée. C'est la rentrée qu'il faut annoncer. La situation économique française pour la rentrée, comment sera-t-elle ? On a vécu le printemps des élections, des programmes économiques. On a un gouvernement qui a été élu avec le président. Eh bien, qu'est-ce qui va en sortir ? Parce que le temps des promesses est terminé. On va passer dans le temps des réalisations. Ça, c'est au niveau interne tout ce qu'on peut réfléchir. Au niveau du monde, paradoxalement, à l'heure actuelle, au niveau des prévisions, l'essentiel des prévisionnistes disent que l'état du monde s'est amélioré en termes économiques. Donc, on attend de voir les effets qu'ils peuvent en avoir sur l'Europe et sur l'euro. Et dernier point, quand même, qu'il ne faut pas oublier, c'est la notion et les négociations du contrat de travail, des lois sur le travail. C'est important sur la valeur d'une monnaie. C'est très important, le coût du travail. Très simplement, pour rappeler cette notion, le coût du travail est un élément essentiel de la compétitivité. On verra ce que ça donne. À bientôt.